Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. La presse, presse écrite, mais aussi presse parlée, les informations radiophoniques, le journalisme du micro, avec ses bons, mais aussi, hélas, avec ses mauvais éléments. À la fin des années 40, Henri-François Rey et Jacques Peuchemaure proposaient dans « La radio écrit l'histoire » sur la chaîne nationale un bref panorama de l'histoire du journalisme parlé. Des archives dans l'archive, tendez l'oreille. L'histoire de la France, de l'Europe, des 20 années précédant la date de diffusion de cette émission, le 16 septembre 1948.
La radio écrit l'histoire.
Une production écrite et réalisée par Henri-François Rey et Jacques Peuchemaure. Aujourd'hui, 20 ans de journalisme parlé.
Le journalisme mène à tout, dit le dicton, à condition d'en sortir. Heureusement pourtant que certains hommes sont restés jusqu'au bout, fidèles à leur métier, solides devant les océans d'informations, les raz-de-marée de nouvelles, les analysant, les commentant avec une inlassable patience. Le journalisme est un beau métier, disent généralement les vieux habitués des salles de rédaction à ceux qui débutent. À moins qu'ils ne clament, c'est un fichu métier, en pensant tout de même que cette chasse aux nouvelles, que cette histoire quotidienne de l'homme que l'on couche chaque nuit sur le papier humide d'encre, c'est tout de même la plus noble, la plus passionnante des activités. En réalité, tout comme la langue, le journalisme est la meilleure et la pire des choses. Il a ses héros, mais il a aussi ses traîtres. Il a ses maîtres qui firent de l'honnêteté d'esprit la première des qualités, mais il a aussi ses maîtres chanteurs, ses truqueurs, ses marchands de fausses nouvelles, ses raccommodeurs de mauvaise porcelaine et ses excitateurs au meurtre. Il a ses va-t'en-guerre, ses va-comme-je-te-pousse, ses va-nu-pieds, ses va-de-la-gueule, qui ne voient dans leurs plumes qu'une occasion de se faire une place au soleil, d'arrondir leur compte en banque à la faveur de guerres, de révolutions, ou plus simplement de fluctuations de la bourse. Depuis 25 ans environ, le journalisme a fait des progrès. Non seulement il sait lire et écrire, mais encore il parle. Mais oui, madame, il parle. Et fort bien, d'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte en écoutant la radio. Tenez, écoutez le journalisme s'exprimer par la bouche d'un de ceux qui ont fait du micro un authentique moyen de compréhension et d'analyse, Jean Guignebert.
Le monde a eu cette nuit un avant-goût de la joie immense qui, dans quelques heures peut-être, sera enfin permise au cœur des hommes libres. Des nouvelles de sources américaines affirmaient que l'Allemagne avait capitulé et que la guerre en Europe était terminée. Sans doute manquait-il encore la confirmation officielle, mais les informations qui nous parvenaient étaient si péremptoires qu'il restait vraiment très peu de place pour le doute. Déjà, nous avions pris nos précautions pour remettre nos émetteurs en marche et sous nos fenêtres, sur les Champs-Élysées, des promeneurs attardés donnaient déjà libre cours à leur allégresse. Hélas, il fallut déchanter. Vers 4 heures du matin, une dépêche de Washington nous faisait connaître que les rumeurs de paix étaient sans fondement. Cependant, les nouvelles de tous ordres qui nous sont parvenues d'Allemagne nous permettent de penser que ce qui était faux cette nuit sera peut-être vrai dans les heures qui vont suivre. C'est l'effondrement irrémédiable de la puissance militaire de l'Allemagne et seul le fanatisme criminel des chefs nazis retarde le moment de l'inéluctable capitulation. Étrange conception du patriotisme, que celle qui aboutit à la destruction de la patrie, alors qu'il ne subsiste aucun espoir de redresser la situation. Le peuple allemand, dans la mesure où il est encore capable de réfléchir, peut, dans ses heures d'agonie, faire le bilan de ce que lui a apporté le national-socialisme. Mais il pousse le goût de la servitude jusqu'à se laisser imposer un monstrueux suicide collectif, qui n'empêchera pas d'ailleurs les survivants, quand ils auront mis vers les armes, de jurer leur grand Dieu qu'ils n'ont jamais été nazis et qu'ils sont innocents de tous les crimes commis par ce régime qu'ils ont toujours abhorré.
Il parle, le journalisme, mais pas toujours comme il faut. Pas toujours dans le bon sens, je veux dire dans le sens de l'honnêteté, de la vérité. Il parle quelquefois par la voix de la trahison, la voix de son maître. La voix faible et rageuse d'un malheureux roquet perdu dans le fracas de la guerre et qui aboie parce qu'il a peur. Vous avez reconnu une définition possible du stratège en studio, Harold Packy soi-même.
Que les opérations aériennes précèdent les opérations terrestres, voilà qui est dans l'absolue logique de la plus commune stratégie. Que les Anglo-Américains veuillent réduire l'industrie allemande sous une avalanche de fer et de feu, de bombes et de ruines, voilà qui est des plus normales. Encore que l'on soit en droit de s'étonner un tantinet de cette nécessité alliée de revenir 10 ou 20 fois sur la même ville, alors que dès le premier raid, dès la première attaque, toutes les informations de sources anglo-américaines ont déjà informé la Terre entière de la totale destruction des objectifs visés. J'en dois conclure que les 10 objectifs ne sont pas si démolis qu'on avait bien voulu le dire, puisqu'il faut y revenir, retourner à eux, 1 mois après, ou même moins, et pas seulement 1 fois, mais 10. Mais ceci n'est qu'un détail.
Quelquefois, il parle aussi par la voix d'une chèvre de M. Seguin centenaire, à la barbe guerrière, à la voix d'outre-tombe avant la lettre. C'est M. Maurras qui tient le crachoir. M. Maurras est content, il vient d'être reçu à l'Académie française. Pensez donc, comtesse, un charmant costume vert et une épée. Voilà qui nous change du couteau de cuisine.
Ma vie s'est épanchée tout entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable, cohérent et autant que possible embranché et se rapportant à toutes les grandes forces du passé. Mais en même temps, je ne pouvais compter à cet égard que sur des adhésions personnelles. Ces adhésions ne m'ont jamais manqué. Pendant 40 ans, j'ai eu autour de moi toutes les amitiés, toutes les affections, tous les dévouements les plus généreux. J'ai eu des collaborateurs effectifs et des collaborateurs moraux qui sacrifiaient tout avec une amitié d'esprit incomparable à la cause que je leur avais proposée.
Mais soyons justes, il n'y a pas que des chèvres qui bêlent devant les micros. Il n'y a pas que des traîtres, des gâteux ou des jobards. Il y a quelquefois des hommes qui se servent du journalisme et du micro pour dire quelque chose de valable, pour jeter un cri d'alarme tel François Mauriac en 1945.
Il s'agit de nous donner à nous-mêmes des motifs d'espérer. Le salut de la France dépend de sa faculté d'invention, de renouvellement dans tous les ordres. Or, nous sommes retombés dans les vieilles ornières. Notre vie politique ressemble sinistrement à ce qu'elle était la veille du désastre. Faisons donc un acte d'espérance. Espérons que pour le redressement du franc, pour le salut de l'Union française, pour l'établissement de la paix sociale, nous saurons inventer des méthodes appropriées aux difficultés que nous traversons. Je ne puis ici que reprendre la dernière phrase du cahier noir qui me paraît toujours actuelle. Le tout est de savoir comment un peuple libre peut devenir un peuple fort et un peuple fort demeurer un peuple juste.
Pour analyser une situation telle Pertinax en 1939.
Les puissances occidentales seraient mieux inspirées tout en manifestant leur volonté d'aider la nation espagnole à réparer ses ruines, de ne point traiter sans obtenir quelque chose en échange de ce qu'elles donnent, de subordonner les avantages qu'elles peuvent octroyer à l'élimination de l'influence étrangère et à la mise en vigueur d'une politique ne perpétuant pas entre les parties espagnoles l'application de la peine du talion. Politique d'assistance, mais aussi de fermeté, qui, à l'occasion, ne devrait pas avoir peur de montrer la force.
Pour constater clairement un état de fait, tel Émile Roche en 1938.
On a dit justement que l'affaire de septembre fut une partie de poker. On dit aujourd'hui que les revendications italiennes traduisent un nouvel accès de bluff totalitaire. Dans 10 ans, ou dans un demi-siècle, on jugera mieux ces événements lorsque seront publiés les documents secrets des chancelleries et de leurs agents. La vérité finit toujours par se savoir, si tard, souvent, regrettons-le, que ceux qui ont vécu les événements au sujet desquels elle s'établit enfin sont généralement morts. Il y a beaucoup de bluffs dans les méthodes diplomatiques des pays qui se targuent de changer la face du monde et qui se moque de la lenteur, de la gentillesse, au sens où Marcel Proust entendait ce mot, des démocraties. D'aucuns, en Angleterre, en France, voudraient qu'on répondît au bluff par un bluff plus accentué. Des avis différents prévalent, et c'est heureux aujourd'hui comme en septembre, alors que les démocraties n'étaient pas prêtes et que la cause qu'on voulait les pousser à défendre était singulièrement mal engagée.
Pour souligner une particularité d'une période politique, tel Émile Buret en 1939.
Bon voyage, monsieur Dallet. Je n'ai point le goût du spectaculaire en diplomatie. Mais il m'est pourtant agréable que notre premier se rende en Corse et en Tunis, mais signifie à Mussolini qu'il n'a pas parti gagné, que la Méditerranée ne viendra pas aussi facilement qu'il le croit, en dépit même de l'aide que lui prête Hitler à l'Aquitaine. La France s'est trahie en trahissant la Messénie pour les Négus. Lui avait toujours témoigné une fidèle amitié. La guerre, qui gagne de proche en proche, qui menace d'atteindre ses propres territoires, a été déchaînée par le gouvernement de Pierre Lavard. Il s'agit pour le gouvernement d'Édouard Daladier de l'arrêter. Le 30 septembre dernier, il avait la tâche plus facile. Alors, autour de la Tchécoslovaquie, solidement équipé, ce serait pour le soutenir, finalement groupé, s'il l'avait senti prêt à la résistance, tous les gouvernements, les nations qui votent le Krak Pakosten, et qui ne sont contraintes à présent de laisser le champ libre au pureur allemand. Comme toujours, le pacifisme aura fait le jeu du bellisme.
Pour commenter l'éternelle tragédie des hommes et des empires, tel Henri Dié en 1938.
L'Allemagne, ou plutôt Hitler, vient encore de déchirer un traité. L'accord de Munich comportait des développements qui devaient en faire une œuvre de paix, sinon définitive, rien en ce monde n'est définitif, au moins durable. Si ce monde entre en effervescence par période, l'échéance que n'avait pas su prévoir M. Benes a été anticipée. Mais Prague est un coup de force du type le plus inique. L'histoire l'enregistre avec horreur. Si encore, il ne faisait que renverser, comme les événements de septembre dernier, une construction que certains ont pu juger inadéquate. Mais il est un trouble de paix. Il foule aux pieds les espérances neuves. Il brise des volontés tendues vers la normalisation des rapports après une crise qu'on était en droit de considérer comme la dernière.
Pour décrire des événements historiques, tel Jean Guignebert à la Société des Nations.
La journée d'aujourd'hui a été donc sous le signe de l'affaire éthiopienne. Et de ma fenêtre, je vois la rade de Genève tout illuminée. Et j'ai assez de mal à m'imaginer que ce soit pour fêter la liquidation de ce problème, car je ne pense pas que les solutions adoptées soient de nature à ajouter grand-chose au prestige de la Société des Nations. C'est sans doute pour d'autres raisons que l'on a illuminé ce soir. Nous saurons tout à l'heure s'il y a quelques fêtes locales, mais non, je crois vraiment que c'est à cause de la session du Conseil de la Société des Nations. Peut-être que les solutions apportées demain au problème espagnol ou au problème chinois justifieront ces illuminations qui aujourd'hui nous semblent pour le moins prématurées.
Non, ne croyez pas que la machine à parole tourne toujours à vide. Elle accroche quelquefois les cœurs, les esprits et les corps. Elle touche très souvent par un mot net, utile, précis. Elle est souvent la voix de nos consciences, la voix de la conscience des peuples. Pas toujours une voix aux ordres, pas toujours la voix mielleuse des fausses bonnes nouvelles, pas toujours la voix sépulcrale des annonciateurs de catastrophes. Tous les journalistes ne sont pas des clowns ou des croque-morts.
Hier soir, j'ai trouvé une lettre débutant ainsi. Madame, à peine...
Pardon, j'ai dit tous les journalistes ne sont pas des clowns, etc. Ce qui signifie nécessairement qu'il y a encore des journalistes que... Enfin bref, à vous, Madame Tabouis.
Hier soir, j'ai trouvé une lettre débutant ainsi. Madame, à peine venais-je de terminer de lire votre article du 12 février sur les armements allemands, que les informations d'un poste de TSF lançaient contre vous une diatribe qui ne peut être tolérée de ceux qui ne se résolvent pas à être des autruches. Cette diatribe consistait en un démenti formel au sujet du dit article. Les enfants croient toujours que lorsqu'ils ferment les yeux, on ne les voit pas, ou qu'il ne se passe rien. Heureux âge, et combien il est regrettable pour les dirigeants du XXe siècle, qu'à mesure que l'on avance en âge, on perd de cette douce illusion. S'il nous suffisait d'ignorer les destins du voisin pour que ceux-ci ne soient pas susceptibles de devenir un jour dangereux pour nous, comme la vie serait belle. Dans ce cas, il faudrait tordre le cou à tous les journalistes de politique étrangère.
Non, pas tous, évidemment, mais certains.
Qui, chaque matin, annonce que l'Allemagne augmente son armée, que l'Italie réclame certaines de nos provinces ou certaines de nos colonies, que l'Allemagne et l'Italie ont parti liés avec Franco et ne nous veulent pas de bien aux frontières des Pyrénées, etc., etc.
Merci, Madame Tabouis, ô Notre-Dame des Paris stupides. Notre-Dame des mines de rien, j'ai tout vu. Que le ciel du zodiaque vous soit favorable.
Maman, ma petite gueule, s'en va faire la noce. Je t'amène en carrosse jusqu'à Robinson. Vas-y, fais-toi belle.
Tous les journalistes sont des hommes et quelquefois aussi des femmes. Et un homme, on sait ce que c'est, dit un personnage de roman, bien sûr. Mais les journalistes que j'ai connus, que je connais, restent quand même d'authentiques honnêtes hommes. Ils excusent les autres. Les autres qui s'appellent Léon Belby et qui involontairement ou volontairement n'ont pas compris le sens réel de l'histoire et ont servi de mauvaise cause.
Je reviens d'Espagne. Parcourir 4000 km en pays de guerre en moins de 8 jours, cela peut sembler assez paradoxal et pourtant c'est vrai. Si dans leur retraite, les Rouges n'avaient avec une habileté d'ailleurs remarquable dynamité la plupart des ponts, on peut dire que rien ne distinguerait les routes espagnoles de celles de la France. Mais les ponts ont sauté, il a fallu établir des voies de dérivation. Le génie de l'armée nationale a opéré ici un travail remarquable, puisque j'ai vu des ponts de la largeur de ceux de la Seine, qui détruits et brisés par les dynamités roses, ont été remplacés par des passerelles assez solides pour supporter des camions de 10 tonnes.
Et même pour supporter M. Léon Belby. Eh bien, les autres excusent ceux qui s'appellent Philippe Henriot et qui ont mis un très authentique talent au service de la pire des tyrannies.
Assez d'hypocrisie. Il s'agit de choisir son camp sans équivoque et sans ambiguïté. Je veux la victoire de l'Allemagne. Je la veux pour mon pays, parce qu'il n'a plus que cette chance d'échapper au pire et au plus définitif des fléaux, le bolchevisme. Je sais que certains haussent les épaules devant ce péril. Ce sont des insensés ou des aveugles. Ceux qui escomptent la victoire américaine ne veulent pas comprendre que M. Roosevelt apporte dans ses bagages le double triomphe des juifs et des communistes. Libre à certains de le souhaiter, mais je suis résolu à les briser coûte que coûte. Je reprends vis-à-vis d'eux, le mot de Clémenceau entre eux et moi, c'est une question de force.
L'histoire permet toutes les acrobaties. Elle télescope le temps. 5 ans après la mort de Philippe Henriot, il reste de cet homme des disques, une voix. Ils sont là sur la table devant moi, et au milieu un petit disque, moins neuf, plus usé. Une étiquette et dessus un nom, Gabriel Péri. Philippe Henriot, Gabriel Péri, l'un Péri, fut tué à cause de l'autre et des mauvaises causes qu'il défendait. Tous deux sont morts. Il y a dans les sillons de ces disques un étrange dialogue. Le dialogue de notre monde, de notre civilisation, de notre génération. Écoutez Gabriel Péri.
Le Conseil des ministres italiens et le Grand Conseil fasciste sont convoqués samedi soir à 23h à Rome. Le Duce doit faire connaître le statut nouveau de l'Éthiopie. On lui prête l'intention de proclamer que le roi d'Italie portera désormais le titre d'empereur d'Abyssinie. Quel sera ce nouveau statut éthiopien? Une seule solution est possible, écrit le Journal d'Italie, l'annexion pure et simple. Il n'est donc pas question de formuler des exigences, même des exigences exorbitantes devant la Société des Nations. La Société des Nations est laissée de côté. L'Italie fasciste ne se préoccupe ni des intentions de Genève, ni d'ailleurs de celles de Paris ou de Londres. La politique du fait accompli triomphe sur toute la ligne.
Il y a d'autres morts sur la table, tous journalistes qui servirent tous la radio. Écoutez cette voix qui nous reporte 10 ans en arrière, au beau soir de l'avant-guerre. Maurice Bourdet, comme tous les soirs devant le micro du Poste parisien, lit sur des feuillets roses son bulletin quotidien.
En Espagne, le président de la République a signé le décret des dissolutions des cortèges à la date d'aujourd'hui. Le premier tour des élections législatives aura lieu le 16 février, le second tour le 1er mars. La nouvelle chambre se réunira le 16 mars. À Genève, enfin, s'est réuni ce matin pour la seconde fois depuis sa création le comité pour la répression du terrorisme nommé par le Conseil de la Société des Nations le 10 décembre 1934 à la suite de l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie et de M. Barthes. Au cours de sa présente session, le comité doit s'occuper particulièrement d'un projet qu'avait suggéré le gouvernement français, projet qui tend à l'institution d'un tribunal criminel international auquel les parties contractantes pourraient déférer les accusés au lieu de les juger par leurs propres tribunaux ou de les extrader. En France, les faits divers continuent d'occuper l'essentiel de l'actualité. À Nice, poursuivant son enquête au sujet du meurtre de Madame Arnaud,
tandis que Vaillant Couturier, autre grand journaliste, s'enthousiasme pour les loisirs des Parisiens.
La victoire du Front populaire dans la Seine ouvre des possibilités nouvelles et magnifiques aux fêtes de Paris. C'est d'abord la certitude que Paris ne sera plus troublé par des émeutes périodiques ou par des menaces d'émeutes. Les ligues factieuses rentreront dans l'ordre. La presse semeuse de panique rentrera dans l'ordre. Paris apaisé verra de nouveau affluer vers lui les visiteurs provinciaux et étrangers qui contribuent à sa fortune. Dans nos municipalités communistes de banlieue, nous avons rendu aux populations le sens de la fête. Tous ceux qui sont informés savent à quel point notre effort a été grand dans ce domaine, au point de vue artistique et sportif. Et nul n'ignore les avantages qu'en retire notre commerce local. Que ne serait-il possible de faire avec une ville comme Paris? Mais il faut hardiment aller de l'avant. Il faut donner à la foule un spectacle dont la tenue satisfasse les plus difficiles. Mais il faut que la participation de la foule soit assurée.
Il y a aussi des voix qui nous racontent des histoires d'ogres, qui avant-guerre occupaient 3 bonnes pages de nos journaux. Vous vous souvenez de ce monsieur Weinmann, ce charmant pin-up boy aux yeux bleus, qui avait pour principale occupation de trucider les filles qui lui tombaient sous la main? Eh bien, M. Géolandon, en 1938, rend compte à ses auditeurs du procès.
Le procès Weinmann, mais oui, évidemment. Je ne peux guère vous parler d'autre chose, puisque voici la 3e semaine que je passe mes journées entières en compagnie du fameux tueur, du charmant Roger Million et de l'adorable Colette Tricot. Je vous avouerai que je commence à souhaiter une autre compagnie que celle-là. Et l'opinion que j'émets ici ne m'est pas personnelle. À part les curieuses élégantes et fardées, trop fardées même, que j'ai appelées les Weinmann Girls, il n'est véritablement personne qui ne souhaite la fin de cet horrible procès qui n'a que trop duré. L'audience d'aujourd'hui n'a été marquée par aucun coup de théâtre. Un fait intéressant pourtant, nous avons vu paraître à la barre des témoins le mari de Colette Tricot. Nous avons été un peu surpris parce que, je vous l'avoue, on nous a tellement parlé des petits amis de Colette Tricot que nous étions bien excusables d'avoir oublié qu'elle avait un mari authentique. Et le président Lemlé paraît l'avoir oublié lui-même, puisque chaque fois qu'il s'adresse à Colette Tricot, il l'appelle Colette tout court. Colette sans Tricot, en somme. Mais enfin, Colette Tricot a un mari peu gênant, mais un vrai mari. Peu gênant, ai-je dit, et je devrais ajouter, très indulgent. Savez-vous ce que tout à l'heure M. Tricot a dit de sa femme au juré? Qu'elle était bonne mère et bonne épouse. Mais oui. Malgré ses fugues incessantes, malgré son association avec Weinmann et compagnie, Monsieur Tricot trouve sa femme bonne épouse et bonne mère. Pour le reste, Monsieur Tricot déclare ne rien savoir. Il y a comme cela des maris, vous le savez, qui ne savent jamais rien.
Winman, bien sûr, ça nous change quand même des camps de concentration et des bombes atomiques. Des voix, encore des voix, des mots tricotés avec des mots et des phrases débitées dans cet étrange univers formé par la radio. Devant le micro, cette petite boîte à confession, des hommes ont parlé, saisissant l'actualité par la queue, la clouant sur le vif, la tordant, essayant d'en extraire la vérité toute nue, ou bien la vérité officielle, ou enfin la vérité, celle qu'il faut dire et celle qu'il ne faut pas dire. C'est du journalisme parlé, infiniment plus émouvant, plus proche, plus direct que n'importe quelle ligne écrite. Du blabla, sans doute, des monceaux, des kilos, des tonnes de blabla, et de temps en temps, une phrase, une vérité, une lumière. C'est le boulot morne et passionnant, triste et captivant de tous ceux qui, nuit et jour, chassent la nouvelle, traquent la nouvelle et la pressent comme un citron.
Vous venez d'entendre 20 ans de journalisme parlé.
La radio écrit l'histoire.
Une production écrite et réalisée par Henri-François Rey et Jacques Peuchemort. Montage de Marguerite Starrer, prise de son Jean Godet, assistant technique Jean Bondix.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 16 septembre 1948. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».